Vous êtes sur RTL. Thomas Soto,
RTL Soir.
Il publie ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu chez Flammarion. Le tennisman Gilles Simon est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Gilles Simon.
Bonsoir.
Vous avez dit il y a des années que vous aviez toujours eu envie de devenir joueur de tennis, comme certains veulent devenir pompier. Et pourtant, quand on lit ce livre qui est passionnant à bien des égards, on sent comme un malaise, peut-être un mal-être, comme si ce sport ne vous rendait pas heureux finalement. C'est une bonne impression ou c'est une fausse impression, ça ?
Les deux, c'est un sport qui me rend très heureux. J'ai toujours voulu être joueur de tennis. J'adore jouer au tennis. Je prends énormément de plaisir à jouer, à m'entraîner. Et c'est pour ça que je joue encore à mon âge.
35 ans.
Ouais. Et d'un autre côté, c'est un sport qui est très difficile.
Ouais.
C'est un sport que, enfin, en tout cas, moi, je le trouve très difficile. Et j'ai souvent remarqué les gens, voilà, qui s'énervaient, qui en jouant au tennis, les pratiquants, même du dimanche, les amateurs, etc. Un sport qui rend dingue un peu tout le monde. Et je me dis, il est dur. Et donc, comme il est dur, il est énervant. Il y a des moments où il fait moins plaisir.
Alors, il y a un personnage qui revient tout au long de votre livre, c'est Roger Federer. Federer vous pose problème. Federer, ou d'ailleurs plutôt le regard que tout le monde pose sur Federer. Pourquoi ?
Oui, Federer lui-même pose absolument aucun problème. Mais c'est le regard, parce que je pense que c'est un joueur qu'on a essayé de former. Pour résumer, un joueur qu'on avait essayé de former avant qu'il arrive, et un joueur qui a validé un petit peu tous nos plans de formation. Et donc on est arrivé à un extrême où on ne veut voir que lui. Pourtant,
il est
admirable à plein de niveaux différents, mais on a d'autres joueurs qui sont admirables et qu'on aimerait, pour le coup, ne pas voir, ou en tout cas pas voir à son niveau, ou pas le battre, ou pas, etc. Parce que il faut que ce soit notre joueur ultime, notre joueur imbattable, notre joueur de cœur, notre joueur qui bat tous les records et qui le reste. Et c'est cette vision-là que j'essaye un peu de combattre, parce que pour moi, c'est là où on se limite.
D'ailleurs, vous écrivez à la télé, on vend des superstars et des histoires. On explique que Federer guérit les aveugles, j'exagère à peine, mais c'est bien, il ne faut pas enlever les étoiles dans les yeux des enfants, puisque ça fait partie de l'attirance qu'ils ont pour le tennis. Comme si Federer avait fait du bien au tennis et peut-être un peu de mal aux autres joueurs.
Non, Federer a fait du bien au tennis. C'est le joueur qui a fait le plus de bien au tennis, c'est le joueur qui a le plus porté notre sport, et c'est pour ça que moi, en amoureux du tennis, je ne suis que reconnaissant. Mais après, j'essaie d'aborder un autre aspect, qui est la performance. À un moment, quand on veut gagner, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Et si, par contre, dans notre discours, pour gagner, c'est Federer ou rien, ça va être rien. C'est déjà rien, et ça va continuer d'être rien. C'est ça que j'essaie de dénoncer dans ce livre. C'est, oui, c'est fantastique, oui, c'est magnifique, c'est pour ça que tout le monde l'adore, mais il ne faut pas se limiter à ça, sinon on perd beaucoup de monde au passage.
Vous racontez cette anecdote touchante avec votre fils Timothée. On est en 2018, il a 7 ans. Et avant de jouer contre le Suisse à Bâle, hein, vous lui demandez alors tu vas être pour qui ? Et il vous répond bah, je vais être pour Roger, mais tu ne vas quand même pas être contre moi. Tu sais papa, j'aime beaucoup, beaucoup Roger. Match accroché, hein, vous perdez 7-6, 4-6, 6-4 chez lui dans son jardin à Bâle. Vous ne seriez pas un affectif qui a manqué de l'amour du public, d'un amour plus franc, plus massif, plus exprimé, Gilles Simon ?
Non, pas spécialement, mais j'ai eu un besoin, pour moi en tout cas, de justesse surtout, et plutôt le côté pragmatique. C'était le côté, c'est parfois le côté injuste de mettre en avant certains joueurs plus que d'autres, des styles de jeu plus que d'autres, certaines valeurs plus que d'autres.
En gros, les vrais bons sont ceux qui ont un style offensif, qui font service volé, qui sont spectaculaires, qui sont efficaces. Et les besogneux, pardon, comme vous décrivez dans le livre, on ne leur rend pas justice.
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment justement ces catégories. Catégoriser ces joueurs-là. Alors que moi, ça ne veut rien dire. J'aurais pu jouer un style de jeu qu'on qualifie de talentueux en étant 50e. On m'aurait dit, je suis 50e et je suis talentueux. Mais je suis 10e, je ne le suis plus parce que je joue un style de jeu qui ne plaît plus. Et donc, c'est ça qui était un peu différent. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière de jouer. C'était le but du livre. Et pour moi, il y a d'autres joueurs que Federer, Nadal, Djokovic, effectivement, qui battent aussi beaucoup de records, qui ont des jeux très différents. Et c'était ça. L'idée, c'était de se dire, pourquoi pas tout le monde ?
Alors, il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, mais il y a un moule dans lequel on essaye de mettre tous les joueurs français. Et ça, vous en prenez beaucoup aux instances dirigeantes du tennis français. À vous lire, on se dit qu'elles ont tout faux, ces instances, dans l'approche technique, physique ou mentale. Pourquoi ?
Tout faux, non, puisque c'est l'exemple.
C'est qu'il vaut mieux perdre en jouant comme on l'a décidé dans le cadre que de gagner en faisant autrement. Le cadre au départ, c'est un moyen, mais très vite, ça devient une idéologie.
Oui, c'est ce que je pense. Mais le fait est qu'un joueur comme Federer rentrait justement dans le cadre et a validé ce cadre à lui tout seul. Et c'est ce que j'explique. C'était là avant lui et lui l'a validé. Donc après, c'est très difficile de sortir de ça. Et pourtant, il faut sortir de ça, parce que la question que je me pose toujours, c'est si Novak Djokovic était arrivé à la Fédération française de tennis, est-ce qu'il aurait 17 grands chelems aujourd'hui?
Vous pensez qu'avec les règles en vigueur, on aurait pu faire jouer différemment de ce qu'est Novak Djokovic?
Je pense que le discours dans lequel on grandit, avec lequel on grandit, dans lequel on évolue en permanence, a un impact beaucoup plus lourd que ce qu'on veut bien dire. Et ce qui me fait penser à ça, c'est que la plupart du temps, si votre enfant ou si votre fils était joueur de haut niveau, la première chose que vous lui direz, c'est « n'écoute pas ça ».
Ouais.
C'est ça qui est très étonnant. Vous êtes dans un métier de média où vous racontez des choses, vous racontez des matchs, etc. Mais quand vous passez de l'autre côté, le premier réflexe, ça serait de se dire « attendez, mais là, si c'était mon enfant, quelqu'un, etc., je voulais le protéger, qu'est-ce que je... » La première chose que je lui dirais, c'est « n'écoute pas ça, vas-y ». Tu peux pas jouer comme Federer, mais tu peux jouer. Vas-y quand même. Vas-y à fond, tu peux y arriver quand même. Et c'est cette déconnexion qui est très importante, je pense.
Alors, vous revenez aussi sur toutes les phrases qu'on entend et on va le dire qu'on répète souvent en boucle, nous les journalistes. Les joueurs français n'ont pas de mental. Vous revenez sur la mauvaise image des Français, trop souvent et injustement présentés comme des feignants, qui travaillent pas assez, qui manquent d'envie. Hein, le manque d'envie, ça on l'entend foot, en tennis, etc. Et vous revenez d'ailleurs sur une interview à la sulfateuse d'Henri Lecomte. On est en septembre 2017, après un US Open raté pour les Français. Et l'ancien finaliste de Roland-Garros se lâche dans le Parisien. Les joueurs français, dit-il, ont un melon monumental. Ils n'ont rien gagné. Dans les vestiaires, tout le monde se marre en regardant le clan français. Dans l'autre camp, ça envoie du lourd, ça travaille. Arrêtez les mecs de nous dire on veut gagner un grand chelem. C'est pas possible, ils ne font pas l'effort nécessaire.
Oui, j'ai pris cette interview d'Henri, pas parce que j'ai quelque chose contre Henri en particulier, juste parce qu'elle résume bien certaines choses que j'ai entendues toute ma vie. Et donc, à chaque fois, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Je suis parti de ces postulats de base, de ces phrases, comme vous dites, que vous entendez, qui sont répétées, que vous avez certainement prononcées vous-même, parce que c'est même pas forcément méchamment, c'est juste que ça se dit. Donc ça se dit, donc on continue de le dire et puis ça fait bien. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, bah alors on va les prendre et on va aller au bout des logiques à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez parlé de l'envie. L'envie, c'est un sujet qui est très important pour moi aussi. Le fameux quand on veut, on peut. C'est celui qui veut le plus qui gagne. Est-ce que Rafael Nadal voulait plus gagner que Djokovic la finale de Roland-Garros? Certainement pas. À mon avis, elle s'est jouée à tout, sauf à l'envie. Mais ça fait bien. On a l'habitude de l'entendre et... quand on le dit, on n'a pas non plus l'impression de dire complètement une connerie. Donc on y va et puis c'est parti.
Et puis votre réponse, elle est très intéressante. Hein, d'ailleurs, l'extrait de l'interview de Lecomte que vous écrivez. Parmi toutes les personnes qui nous ont traités de feignants, je n'en ai jamais, jamais vu une seule assister à l'un de mes entraînements. Pas une seule à aucun moment.
C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pour ça. Et puis quand je continue, je parle. Et puis on nous compare à d'autres joueurs qui n'ont pas vu non plus. Donc on est vraiment dans de la représentation, dans du oui-dire, j'ai entendu qu'ils ont travaillé, qu'ils n'ont pas travaillé, mais ça sert quelque chose. C'est ça que je veux dire, c'est que si c'est fait, c'est parce que ça justifie, selon eux, ce manque de résultats, alors que pour moi, le problème est complètement ailleurs.
Mais est-ce que ça peut vous abîmer, vous fragiliser, vous les joueurs, d'entendre ça? Vous écrivez à un moment, c'est pas la même chose si tu as entendu tout le temps, tu vas y arriver, plutôt que attention à la remontada.
Oui, forcément, ça a forcément son importance. Ah ça, j'en suis persuadé. Pour moi, il y a des joueurs qui peuvent se construire dans l'adversité ou des athlètes à tous les niveaux. Mais la plupart du temps, à 10 enfants, vous leur dites « vous n'y arriverez pas » et ils vous croient, tout simplement.
Quelles conséquences peut avoir la sortie de ce livre pour vous? On a le droit de parler comme ça? Parce que vous y allez franco, hein. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant dans ce bouquin.
Je ne parle pas souvent.
Mais là, vous parlez vrai, vous parlez franc.
Je ne parle pas souvent. Quand je parle plutôt franchement en général. Le but, encore une fois, c'était... Le but, c'est pas de régler des comptes, de chercher des excuses, etc. C'est d'essayer d'amener une analyse. Je me dis, voilà, moi, je suis arrivé, il y avait un discours qui était en place. Il était déjà là avant moi. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, on me disait, t'y arriveras pas, le tennis du futur, c'est service volé. Et puis après, je regarde, je me dis, le service volé, il a disparu. Donc je me dis, il y a des gens qui étaient payés pour ça, qui sont censés être visionnaires, se dire, ça va se jouer comme ça. Et puis j'ai pris toutes ces choses-là, et puis j'ai vu après Federer qui validait cette idée-là, du joueur qui avance tout le temps, qui crée du jeu, qui est magnifique, qui est élégant, qui est là, qui a un mental parfait. Ok, super. Et puis, la déconnexion. Pourquoi on l'aime du coup plus que les autres? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, tout simplement, déjà, dans le fait de l'aimer plus à cause de ça? Et le fait qu'on continue, et le fait que maintenant, ça fait 50 ans qu'on joue des grands chelems et qu'on en a gagné un chez les hommes.
Chez les hommes, parce que chez les femmes, on en a gagné.
Bien sûr, mais j'en parle aussi. Donc c'est voilà, ces trucs-là, et je me dis, si on continue de faire la même chose, je ne vois pas nécessairement de raison que ça change.
Gilles Simon, vous avez 35 ans, vous voyez continuer jusqu'à quand, vous? Vous êtes un jeune homme par rapport à Federer, hein, pour le coup, qui va avoir 40 au mois d'août.
Oui, mais c'est difficile quand même.
Ouais.
Mais non, tant que je peux, parce qu'encore une fois, j'adore jouer. Après, le niveau est très dur, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent bien, donc malheureusement,
après,
au classement, ça recule un petit peu à chaque fois. Puis à un moment, on sort, c'est la
prendre
réalité.
Prendre des responsabilités à la Fédé, ça pourrait vous intéresser avec ce diagnostic que vous posez ?
Oui, moi ça peut m'intéresser à la Fédé ou ailleurs parce que je suis dans l'action en général, je suis rarement dans le commentaire. Donc là, voilà, j'ai voulu poser ça de mon point de vue dans un livre écrit comme je voulais, sans le jeu médiatique qui reprend la petite phrase dans une interview, etc. Je me suis dit, voilà, ce que je pense, tac, débrouillez-vous avec ça, ça vous plaît pas, c'est pas grave, c'est mon avis, c'est comme ça que ça marche et puis...
C'est un avis en tout cas qui est argumenté, c'est un bouquin qui est vraiment intéressant. Merci Gilles Simon d'être venu nous présenter ce sport qui rend fou, votre livre qui sortira après-demain chez Flammarion. Bonne journée et bon Rolex Paris Master la semaine prochaine à Bercy.
Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
Merci à vous. À suivre la culture de l'actu qui prend l'accent irlandais ce soir, une Irlande confinée mais qui n'en reste pas moins créative. Julia Molcou arrive.
RTL Soir.